45. En direct de l'abbaye bénédictine de Tournai.
Il est l'heure de se retrouver avec vous, Anne-Rose, pour un long reportage qui ressemble à une longue table ronde.
C'est plutôt un long entretien avec Frère Mathieu qui va nous parler assez longuement des retables, que nous abordons aujourd'hui, cet art baroque, ce samedi saint, mais tout simplement parce que les retables nous parlent d'un ailleurs, d'une espérance, et c'est précisément ce qu'on essaie de vivre en ce samedi saint, se plonger dans notre espérance, l'espérance de la résurrection. Les retables nous parlent aussi de tout cela, et c'est ce que Frère Mathieu va nous expliquer maintenant.
Bonjour, Anne-Rose.
Avec vous, maintenant, nous allons parler des retables. C'est votre spécialité, vous qui êtes moine ici à l'abbaye Notre-Dame de Tournai. Vous avez, je ne sais pas si on peut dire une passion, en tous les cas, un intérêt vraiment pour l'art baroque dans les Hautes-Pyrénées et notamment pour cette étude de ce que sont les retables. Alors, vous allez nous aider à un petit peu comprendre cet art baroque. D'abord, est-ce que pour commencer, on peut faire une présentation un petit peu générale de ce qu'est l'art baroque ?
Qu'est-ce que c'est que l'art baroque ? Bon, si vous voyez un retable, vous comprendrez ce qu'est l'art baroque. Mais je voudrais commencer par une citation. Pour certains et pour beaucoup, le baroque est un art de la superficialité. Le pape Benoît XVI, lui, y apprécie un alléluia devenu image. J'aime beaucoup ce que dit Benoît XVI, un alléluia devenu image. Et je crois que le baroque, c'est un art de la vie. Donc, à partir de là, on peut réfléchir, on peut regarder un retable et vraiment vivre avec le retable. Dans les Hautes-Pyrénées, vous avez un retable qui est exceptionnel, c'est le retable de Garaison, qui est là en 1635. Et le grand sculpteur, c'est Pierre Affre. Mais je mettrai Garaison un peu de côté. Je voudrais venir, ou du moins parler de quelques grands ateliers qui sont les ateliers des Ferrer, les ateliers de la famille Soustre, de Jean Brunelot, et ensuite vous avez Jean Claverie à Lourdes. Voilà. Et personnellement, je connais bien les trois premiers, Ferrer, Soustre et Brunelot.
Qui sont des familles, des dynasties d'artistes.
Alors, ce sont des dynasties, comme vous dites. La famille Ferrer, eh bien, vous pouvez la suivre de 1647 à 1856, pendant donc 209 ans. Voilà. Donc, parlons rapidement quand même des Ferrer. Jean Ier Ferrer, on le voit à Bagnères de Bigorre en 1647. Bon, cet homme va s'installer plus ou moins à Asté. Il sait que là, il y a un créneau. Et de menuisier, il va passer sculpteur. Une sculpture un peu dure, un peu avec des vêtements lourds. Et il meurt en 1704. Il a eu un fils, plusieurs enfants, mais je parlerai longuement plutôt de Marc Ferrer, qui naît en 1674. Et cet homme, donc, naissant en 1674, on le retrouve en 1704, lorsque son père meurt. Je crois que c'est un homme tout à fait intéressant, très dynamique. Il relance tout à fait l'atelier. Et j'aime beaucoup cet homme parce qu'il a parcouru la France. Et personnellement, je le fais passer en Italie. Et je pense qu'il est allé à Venise. Il a vu de belles choses et il nous en fait profiter. Donc, c'est un homme tout à fait intéressant qui est installé à Asté. Donc, un homme à suivre. Je crois que ça, c'est un théologien, à mon avis. Il cherche lui aussi au travers de sa sculpture. Ensuite, il y a deux enfants qui continuent. Alors, je ne veux pas être dur par rapport aux enfants, mais personnellement, je crois que le vrai baroque, ou qui a du sens baroque, se termine vers 1750. Les deux fils profitent du dynamisme de l'atelier, mais autant le père réfléchit, autant les fils ne font que copier. C'est la fin, à mon avis.
Ils sont dans la reproduction.
Voilà, ils sont dans la reproduction. On va me dire, mais c'est du beau travail, je le crois, mais il y manque quelque chose.
C'est-à-dire que c'est juste de l'art, alors que leur père, c'était de l'art, mais avec vraiment la foi qui était impliquée.
Tout à fait. Donc, voilà pour la famille Ferrer. Et nous passons maintenant à la famille Soustre. La famille Soustre, donc, Jean Ier Soustre, est de Goudon, tout près de Tournai, là. Et il est embauché en 1660 par Ferrer, Jean Ferrer. Au bout de 2 ans, Soustre quitte Ferrer et s'installe à côté, à Asté. Je ne pense pas que ce soit tellement une affaire de sous, d'argent, mais Soustre pense qu'il est aussi bon que le patron. Et il se met à côté. Bon. Alors là, il fait du beau travail, Soustre, déjà, mais en 1689, son fils, Jean, toujours, Jean II, nous arrive, je ne sais pas trop d'où, mais l'abbé française disait qu'il écrivait bien et qu'il avait une belle signature, donc il a été à l'école et il a dû peut-être même faire un travail d'enquête qu'atelier. Cet homme se marie et à mon avis, il s'installe à Asté. Et à partir de là, un travail magnifique. Magnifique. Donc, cet atelier va s'arrêter, si je puis dire, en 1715 et 1716. C'est le fils et le père meurent. Mais il nous laisse un excellent travail.
Est-ce que vous pouvez nous donner des lieux où on peut voir leur travail?
Pour Soustre, mettons, eh bien, nous commencerons par Mouledouce, à 5 ou 6 kilomètres de Tournai. C'est un très beau retable. Ensuite, vous avez Meung, tout proche d'ici. Vous avez ensuite Poumarousse, tout proche de Tournai. Je voudrais rester dans les vallées de la Rosse. Ah oui, Bourg de Bigorre. Donc voilà, tout ça c'est du beau travail. Un travail très subtil, très vivant. Et à mon avis, c'est le plus baroque. Il est plus baroque encore que mon ami Ferrer. Et les limites de l'atelier Soustre, c'est que ils ont des dessins, et ils vont sculpter donc des scènes bibliques, mais ils ont quelques dessins ou quelques représentations, mais ils vont agrandir ou rapetisser, mais ça sera toujours pareil. Les Assomptions, mettons, de Marie, qui sont de très belles Assomptions, si vous allez à Mouledouce, très beau. Mais l'Assomption à Mouledouce, c'est 2 mètres sur 2 mètres à peu près, donc quelque chose d'important. Mais vous allez retrouver la même Assomption sur un tabernacle qui est 20 cm sur 20 cm.
Donc ils font en détail ou en zoom, ils zooment, ils dézooment.
Voilà. Donc c'est un peu la limite quand on veut, mais j'aime beaucoup les Soustres. Voilà.
Et ensuite Brunello.
Brunello. Donc Brunello nous arrive de la Vendée, mais donc 1698, oui, par là, et il s'installe à Tarbes. Il ne va pas à Asté. Il s'installe à Tarbes et il sort du très beau travail comme du très mauvais travail.
Et Pourquoi ? Comment on explique ça ?
Je n'en sais rien. Mais donc, vous avez du très beau travail. Vous avez Avezac. Ensuite, vous avez Cabanac. Alors, donc là, c'est tout à fait des retables qui sont proches de Tournail. Hein ? Il y a un très beau travail à Nestalas. Il y a un très, très beau petit... Bon, tout ça. Mais si vous allez dans d'autres églises avec Brunelot, vous allez être un peu étonné de ce travail qui n'est pas très, très bon. Non, on ne peut pas dire. Voilà les trois grands ateliers que je connais un peu, mais que j'aime beaucoup. Et c'est toujours pareil, vous voyez. Quand je suis rentré là-dedans, c'est un ami qui m'a dit que je devrais chercher dans les retables. C'est ce que j'ai fait, mais au départ, c'était pas très attrayant. Mais ensuite, bon, on s'y est mis, et voilà.
De retour après cette première partie avec le frère Mathieu Solière à votre micro, Anne-Rose. Ensemble, vous nous parlez des retables, donc ouvrage de l'art baroque.
Ces retables sont effectivement des chefs-d'œuvre de l'art baroque et ils font l'objet d'études de votre part, frère Mathieu. En première partie, vous nous avez donc donné un petit cours d'histoire avec les trois dynasties qui ont œuvré dans l'art baroque, les familles Ferrer, Soustre et Brunello. Alors on continue, si vous voulez bien, en s'interrogeant sur la place du retable dans l'église pour comprendre à quoi sert un retable ? Est-ce qu'il ne faut pas observer d'abord sa place, disons, géographique dans l'édifice église et la façon dont il habille le tabernacle ?
C'est après le Concile de Trente, 1545-1563. Voilà. Donc, disons que dans la région ici, c'est quand même un baroque, un baroque un peu finissant. Mais je garde la qualité de ce baroque des Hautes-Pyrénées. Mais bon, donc, ce qu'apporte de nouveau le Concile de Trente, c'est la présence réelle. Qu'est-ce qu'on appelle la présence réelle ? C'est le Christ reste présent dans l'hostie. Voilà. Donc, cette présence réelle, elle est placée dans un tabernacle, et le tabernacle est placé au centre de l'autel central dans l'église. Le tabernacle, c'est le pivot. C'est le pivot. Si vous enlevez le tabernacle, vous enlevez la vie de l'ensemble. Voilà. Donc, il y a le tabernacle qui va être toujours placé en premier. Toujours placé en premier. Donc le tabernacle, à partir de 1565, le Vatican demande que le tabernacle soit en préférence en bois et doré. Et alors ensuite, avec des dessins, des gravures, si je puis dire, des sculptures à l'extérieur et à l'intérieur, habillés de soie, enfin de bon, voilà. Donc, un grand honneur au tabernacle. Ce tabernacle, je me répète, est placé sur l'autel central de l'église. Et il est au centre de l'autel. Ça, c'est le tabernacle. C'est la pièce maîtresse. Hein. Si les paroisses ont de l'argent, ils vont agrandir.
Habiller le tabernacle.
Voilà, tout à fait. Habiller le tabernacle. Hein. Voilà. Voilà. Donc...
Le retable, en fait, sert à ça, à habiller le tabernacle pour que la vie soit à la fois protégée et peut-être mise en beauté.
Mise en beauté, tout à fait. Mais pour arriver au retable et au tabernacle, nous sommes rentrés dans l'église, nous sommes rentrés par l'ouest. L'ouest, c'est là où le soleil s'en va, c'est le lieu de la mort. Donc, de ce lieu de la mort, de l'ouest, nous allons tendre vers l'est, où se situe le retable. Bon. Donc, le retable, Avant d'y arriver, vous avez la nef, où le n'importe qui est là. Ensuite, vous arrivez à la table de communion et vous passez dans un ailleurs, comme vous dites si bien. Bon. Et vous avez la chair sur la gauche. Et la chair, le ministre qui vient prêcher, reste toujours au même niveau que le cœur. Il passe aussi un habit, il monte à la chair, mais il ne sort pas, si je puis dire, du cœur. À partir de là, vous êtes devant cette sainte table qui est sainte, mais qui est vraiment barrage aussi. Hein, soyons clairs, il y a les laïcs et il y a les prêtres. Mais ce que j'aurais voulu dire avant, c'est que dans certaines églises, le plafond de la nef, c'est de la brique toulousaine. Vous voyez ? Alors quand même, il y a le poids de ces briques qui sont sur vos dos. Oui. Et quand vous passez, mais on ne peut pas le faire, mais si j'avais pu passer la table sainte, il y aurait eu le ciel, avec les étoiles, un monde tout à fait différent. Comme vous dites, c'est un ailleurs. C'est un ailleurs. Donc, cet ailleurs, c'est l'horizontalité et la verticalité qui se nouent de nouveau.
C'est-à-dire qu'ils se rencontrent.
Ils se rencontrent et ils se nouent. C'est un volume où il y a du sacré. On cherche du sacré partout maintenant, mais Dieu sait s'il y a un lieu qui est sacré, c'est là. Hein? Donc, c'est dans ce lieu sacré que se situe le retable avec le tabernacle. Bon. Eh bien, ensuite, nous, fidèles, ne passons pas de l'autre côté, mais nous regardons, nous profitons, regardez ce qui nous attend. Voilà. Je crois que ce volume, qui est le cœur, hein, eh bien, c'est ce qui nous attend. C'est transfiguré. On va retrouver aussi bien Saint-Paul, Saint-Pierre, tout ce monde-là qui nous attendent de l'autre côté.
Alors, pardon, je vous coupe, frère Mathieu Solière, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui me font rebondir dans tout ce que vous dites. La première, c'est que finalement, ce que nous voyons quand on est dans la nef, on regarde ce tabernacle, ce cœur, ce retable, il nous parle d'espérance, il nous parle de là où on va.
Mais oui.
Ça résonne particulièrement en ce samedi saint.
Oui. Et ce qui m'a fait démarrer correctement par rapport à l'ensemble baroque, c'est que sur certains tabernacles, et vous avez le tabernacle de Mazerolles, sur le tabernacle au sommet, vous avez le ressuscité. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, oh, j'ai dit, c'est extraordinaire. C'est la vie qui est là. Alors, ça m'a fait beaucoup démarrer. Et je crois que ce ressuscité, à un moment donné, quand même, des prêtres ont été un peu gênés par le ressuscité. Ils l'ont enlevé et ils ont mis la croix glorieuse. Je veux bien croire à la croix glorieuse, mais ma lecture est plus facile en voyant un ressuscité qu'une croix glorieuse. Bon, tout ça pose des questions de théologie.
En tous les cas, la finalité, c'est Christ ressuscité, c'est la gloire du Christ.
Ressuscité. C'est le Christ ressuscité. Et c'est la présence réelle, c'est quand même la vie qui est là, qui est là. Moi, ce que je trouve superbe dans un tabernacle, c'est que souvent, sur la porte du tabernacle, vous avez le crucifix avec Marie et Jean. Mais comme je me dis souvent, qui te présente cette scène? C'est le pain vivant qui est derrière, qui te dit, voilà où j'étais, voilà.
Alors, on va passer peut-être à la deuxième partie, parce que le temps passe, frère Mathieu. On va peut-être regarder les éléments incontournables que nous trouvons dans chaque retable. Et puis, les matériaux, vous en avez un peu parlé, puisque tout à l'heure, vous parliez de bois de bois doré. Alors voilà, il y a ces deux points-là pour la deuxième partie de notre entretien. Ce sont les matériaux et puis les éléments incontournables, peut-être les figures bibliques, les saints. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve sur un retable? Quelle lecture on fait?
Alors, au niveau des matériaux, les Hautes-Pyrénées, je ne parle que ce que j'ai vécu ou ce que je vis dans les Hautes-Pyrénées. Et je vois qu'il y a des choses différentes dans d'autres. C'est du bois, c'est le bois. En général, dans les contrats, ils demandent que ce soit du bois de tilleul, souvent. Les grandes charpentes, c'est du sapin, c'est de temps en temps aussi. Mais le tilleul est un bois qui est relativement facile, entre guillemets, à travailler. Voilà ça. Ensuite, moi, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est que les statuettes sont souvent en bois d'arbres fruitiers.
Et pourquoi ça vous plaît?
Parce que, nous mettons la Vierge Marie, elle est mieux, à mon avis, dans un bois fruitier que dans un bois quelconque.
Hein? Même là, il faut être attentif au choix des matériaux. Le choix des matériaux doit aussi se faire au service du beau.
Voilà, tout à fait. Hein? Et si vous cherchez le diable, il aime beaucoup le noyer. L'arbre noyer, qui est un arbre un peu compliqué, hein, qui donne mal à la tête, tout ça. Voilà. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. C'est symbolique comme ça. Bon, ça me plaît beaucoup. Donc, alors ensuite, vous avez l'or, vous avez les feuilles d'or, vous avez les peintures, la couleur. Je voudrais quand même parler un tout petit peu des doreurs. Parce qu'on parle beaucoup du sculpteur, mais c'est le doreur qui va donner la vie à l'ensemble. Il peut empâter, le doreur, un retable, tandis qu'il y a une finesse. Donc il faudrait parler aussi du doreur. C'est lui qui va donner la vie.
Voilà, donc ça c'est pour les matériaux. Alors ensuite, il y a peut-être, je ne sais pas, c'est vous qui allez nous expliquer, frère Mathieu, des éléments incontournables. Qu'est-ce qu'on doit absolument, qu'est-ce qu'on retrouve dans tous les retables? Qu'est-ce que vous avez repéré d'éléments qui sont vraiment incontournables dans tous les retables et qui sont la base? Bien sûr, le tabernacle au centre, ça on a bien compris, la vie. Mais dans les personnages qui sont représentés, peut-être des figures bibliques, des saints, on a repéré que il y a souvent des anges bien dodus.
Oui. Les personnages dans nos retables ne sont jamais ascétiques. Ils sont bien portants. Pour ce qui est donc de... Vous avez les deux grandes colonnes de l'Église, Pierre et Paul. Vous allez les retrouver immédiatement dans le tabernacle. De chaque côté de la porte du tabernacle.
Toujours.
Toujours. Quand je regarde un tabernacle, Pierre est à gauche et Paul est à droite. Donc, et vous allez souvent les retrouver ensuite dans le retable. Et toujours pareil, quand vous regardez, à gauche Pierre, à droite Paul. C'est facile parce que Pierre est toujours avec les clés et Paul avec l'épée et le livre. C'est facile. Donc ça, c'est eux. Ensuite, bon, vous avez la Vierge Marie, bien sûr. Celle qui me pose le plus de questions, c'est Catherine d'Alexandrie. Alors, Catherine d'Alexandrie, elle est partout. Partout, partout.
Elle est dans tous les retables, elle est là.
Elle est à peu près tout le temps.
Et pourquoi?
Le pourquoi, je n'arrive pas trop à répondre.
Parce qu'on venait chercher des réponses quand même aujourd'hui.
Mais donc, la question c'est qu'elle est priée, et elle a été priée par tout le monde, et Vatican II l'enlève du calendrier. Mais maintenant, Jean-Paul II, revenant d'un pèlerinage, remet dans le calendrier Sainte Catherine d'Alexandrie. Donc, il est maintenant facile de reparler de Catherine d'Alexandrie. Et j'ai quand même, je suis heureux parce que il vient de sortir un livre sur Catherine d'Alexandrie, donc je vais le lire immédiatement. Donc, mais voilà, voilà des questions. Les gens vous disent, mais pourquoi? Nous qui avons prié Catherine d'Alexandrie, vous me dites que c'est une légende. Ne pas inquiéter et répondre comme il faut. Donc, elle est là. Ensuite, vous avez Saint Jean-Baptiste. Non, ensuite, vous avez les grands classiques. Hein. Je veux dire par là que Saint Jean-Baptiste...
Mais est-ce que le retable est aussi construit pour chaque église en lien avec le patron de l'église?
Avec le patron, oui.
Donc, sur chaque retable, il y a le patron du lieu? Non, pas forcément.
Pas tout le temps, mais enfin, souvent, vous avez quand même la statue du saint patron.
On poursuit, on termine notre long entretien avec vous, frère Mathieu. Nous avons appris beaucoup de choses déjà sur les retables, mais pour cette dernière partie, je voudrais que nous regardions vraiment comment le beau nous parle de Dieu. Et puis aujourd'hui, samedi saint, comment le retable nous parle de la vie alors que nous sommes dans le silence. Alors, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que quelquefois, on passe devant des églises qui, d'extérieur, semblent assez... ordinaire, banal, qui ne nous donne pas forcément envie d'entrer. Et puis, quand on rentre, un retable somptueux, magnifique, qui nous en met plein la vue. Comment on explique ça? Il y a un peu un décalage, c'est assez étonnant quand même dans certains lieux.
Comment peut-on l'expliquer? Bien, écoutez, il y a le bâti déjà de l'église qui était là. Hein. Donc, avant le mouvement baroque, l'église était là. Mais arrivant le baroque, on est en train de, comment dire, oui, de supprimer tout ce qu'il y avait, hein, et avec une violence extraordinaire pour abandonner ce qu'il y avait avant. On va maintenant passer plutôt, à mon avis, on passe plutôt, jusqu'à présent c'était l'oreille, et le baroque va nous ouvrir à la vue. Il y a les fenêtres, tout ça, les vitraux vont être cassés au profit du verre blanc. Enfin, c'est vraiment un changement terrible.
Et dans quel but quand on a préparé cette émission, je vous ai demandé, mais alors l'objectif, c'était de donner une catéchèse, et vous m'avez dit, ah non, pas du tout. Alors, quel était l'objectif d'en mettre comme ça plein la vue aux fidèles?
En mettre plein la vue, oui, mais...
Je provoque un peu, non, je fais exprès.
Je pense que là, c'est un moment de la civilisation, le monde maintenant quitte plutôt l'oreille pour regarder. Voilà,
c'est l'oreille. C'était pas nécessairement au service de la foi, c'était une approche artistique qui a servi peut-être la compréhension.
Artistique qui va avec la foi aussi. Hein. Donc là, c'est là qui est. Non, mais quant à la pour ce qui est de la catéchèse, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pourquoi je n'y crois pas? Parce que si vous regardez un rétable, il est toujours très loin. Il est loin.
Oui.
Bon. Quand vous regardez le tabernacle, les scènes bibliques sont toutes petites.
Oui.
Et à cette époque-là,
vous n'allez
pas vous approcher. Hein, vous n'allez, donc, Moi, je crois...
Plus... C'est vraiment au service de la présence réelle.
C'est la présence réelle qui est là. C'est cet ailleurs. C'est cet ailleurs qui nous attire. Qui nous attire. Voilà. Et je crois qu'il faut se laisser attirer. Ne rentrez pas dans une église en disant « Je vais voir du Soustre, je vais voir ceci, je veux savoir quelle est la date. » Non, attendez pour tout ça. Régalez-vous avant de vous poser ces questions.
Oui, mais alors ça, c'est possible quand les amateurs que nous sommes, nous avons peut-être l'occasion d'aller de rentrer dans une église, peut-être avec vous même, frère Mathieu, où vous nous dites « Attention, d'abord observez avant de chercher des notions historiques. Voilà. » Pour autant, ce n'est pas toujours facile de repérer, de comprendre tout ce que le retable présente. Il faut quand même être un peu aiguillé.
Imprégnez-vous du retable. Je veux dire par là que laissez-vous faire par le retable. Ne lui imposez rien, mais laissez-vous imposer par le retable, c'est-à-dire regardez.
Donc pour vous, c'est une disposition du cœur.
Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Ensuite, nous verrons. Mais au premier abord, vous devez être heureux et ou heureuse de voir quelque chose qui est beau quand même. Voilà. Ensuite, on étudiera, si je puis dire. Mais non, dans un premier temps, laissez-vous aller et le retable vous parlera.
Est-ce que le retable peut nous parler aussi si on n'a pas la foi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il peut révéler quelque chose?
La question, c'est est-ce que le beau va révéler? Oui. Quel est le ressenti d'un homme ou d'une femme qui n'a pas la foi? Mais pourquoi...
Parce que le beau parle de Dieu de toute façon.
Tout à fait, tout à fait.
Ben voilà, tout est dit. Votre silence répond. Alors, comme nous sommes aujourd'hui samedi saint, il faut quand même dire que, évidemment, cet entretien que nous avons sur les retables, si on veut le lier à cette journée du samedi saint, à ce silence du samedi saint, alors peut-être que vous pourrez d'abord nous donner une ou deux églises qu'on peut aller visiter là autour de l'abbaye de Tournai pour voilà, peut-être des églises silencieuses. Mais alors, en tous les cas, le samedi saint, le tabernacle, il est vide.
Le tabernacle est vide.
Et alors, comment, justement, la vie n'est pas là.
La vie n'est pas là, mais... Si vous voulez avoir un signe quand même du samedi saint, sur l'autel, vous avez la pierre d'autel. Et si vous soulevez la pierre d'autel, vous avez une petite fosse, si je puis dire, qu'on appelle le sépulcre. Et à l'intérieur du sépulcre, vous avez des petits os qui sont des reliques. Il y a ce grand silence, si je puis dire, qui est là, qui n'est pas effacé. Vous voyez ce que je veux dire, hein? La vie est toujours là, et Dieu sait si elle est dans l'héritable, mais il y a ce souvenir, cette mémoire de ce temps de silence.
Et pour finir, le retable nous conduit toujours à regarder le Christ qui sera victorieux pour finir.
Il est victorieux, il est victorieux. Le Christ... est victorieux, et je suis toujours heureux de retrouver le Christ ressuscité en haut d'un tabernacle. C'est la vie qui est là. Hein. Pour moi, cet ensemble m'aura fait comprendre que la vie est plus forte que la mort. Voilà.
Et voilà ce qui est important à avoir dans le cœur en ce samedi saint.
Voilà, tout à fait. Le samedi saint, c'est ce temps qui n'est pas un temps. Voilà, c'est un vide. Mais qu'est-ce qui se passe entre la descente de Jésus et la remontée, si je puis dire? Quel est ce point d'intersection entre la descente et la montée? Qu'est-ce qui se passe là? Dieu seul le sait.
Voilà, on termine avec une dernière question, frère Mathieu. Dans ces églises du Val d'Arros que vous connaissez, que vous avez parcouru, que vous faites visiter pour expliquer, pour permettre à des personnes d'observer, de s'imprégner de ce qu'il y a sur les retables. Est-ce qu'il y a un retable qui vous a peut-être, qui vous touche peut-être plus qu'un autre, ou qui vous parle de Dieu mieux qu'un autre?
Alors, vous avez le retable de Mouledouze. Le retable de Mouledouze est parfait. C'est un grand retable avec un tabernacle du premier Ferrer. Et ensuite, le retable de l'ensemble, c'est de Soustre. Il est de 1705, par là. Voilà, ça, c'est
Qu'est-ce qui fait qu'il est parfait, à vos yeux?
Il est parfait parce qu'il est beau. Je veux dire par là que quand je vais le voir, c'est pas le point de vue intellectuel qui m'intéresse. Non, il est là, il est beau, tout est beau, les statues sont belles, voilà.
Et ça suffit pour vous parler de Dieu.
Ça suffit.
Ouais. Merci beaucoup, frère Mathieu Solière, pour toutes ces explications. Merci de nous avoir aidés à rentrer dans ce samedi saint avec une approche différente, voilà, en observant les retables et en essayant de comprendre ce que sont les retables. Peut-être que pour les auditeurs qui en auront l'occasion, ils peuvent venir à l'abbaye de Tournai, où je crois que chaque été, vous proposez une petite session.
Alors, il n'y aura pas de session cette année, mais j'ai prévu quand même pour entre juillet et août, au moins deux grandes journées et ensuite deux journées plus petites avec les retables de la vallée de la Rosse et d'une vallée à côté.
Merci beaucoup, frère Mathieu Solière, de permettre aux autres personnes de comprendre ce que sont les retables. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Semaine Sainte 2025. Semaine Sainte 2025. En direct de l'abbaye bénédictine de Tournai.
Et avant de se quitter, Anne-Rose, on fait le point avec vous.
Eh bien oui, tout au long de cette matinée, nous avons réfléchi à la manière de trouver Dieu, parler à Dieu, écouter Dieu dans ce silence du samedi saint. Alors vous l'avez compris, vous pouvez lire, comme nous l'a suggéré frère Martin, prier, contempler, et puis aussi rendre grâce pour les catéchumènes qui deviendront des néophytes dans quelques heures, ce soir peut-être pendant la vigile pascale ou demain matin, et puis nous interroger, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les paroisses pour que ces néophytes ne se sentent pas soudain abandonnés après le baptême? Eh bien, trois points, l'amitié, la messe dominicale, le service. L'amitié, leur demander des nouvelles, la messe dominicale, eh bien leur donner leur place dans nos assemblées dominicales. Et puis, le service, n'hésitons pas à proposer des services aux néophytes, des services dans la paroisse, dans nos services, dans nos mouvements. Ils ont eux aussi des choses à apporter, à donner, à offrir à l'Église, nos églises diocésaines. Profitons-en, et comme on le disait tout à l'heure, eh bien ce sont ces petites graines qui vont faire fleurir nos églises diocésaines, nos églises locales.
Donc d'espérance.
Des graines d'espérance, exactement.
On se retrouve évidemment, c'est pas terminé, on va pas tout de suite ranger les valises et partir, non, le Triduum Pascal continue sur votre antenne avec l'office du milieu du jour commenté par Étienne Dallaire. Ce sera à midi, il y aura aussi l'office de nonne à 14h, toujours commenté par Étienne Dallaire, et puis il restera avec nous encore jusque tard dans la nuit, puisque les vêpres seront en direct à 18h, et puis évidemment, cette vigile pascale en ce samedi saint, ce sera dès 21h30. Merci beaucoup, Anne-Rose.
Merci, Jonathan. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent, qui suivent ces prières, ces offices, ces reportages qui parlent de l'abbaye de Tournai. Vous pouvez en savoir plus sur l'abbaye de Tournai également en vous rendant sur le site internet abbayetournai.com. Et là, alors, il y a les textes hein, de toutes les lectures de ces jours saints et puis aussi plein d'explications sur la vie monastique.
Merci beaucoup, Anne-Rose. À bientôt.
Merci.
présence à Gourdon, 104.8.
Quand ton fils meurt pour nous, tu es là, Marie, au pied de la croix.